Alors, nous allons continuer notre culte et ce moment de prédication. La fois passée, dans les 3 dernières semaines, nous avons commencé un grand sujet que nous avons commencé, qui parle de vivre en Christ, de la vie en Christ. Nous avons dit que c'est un sujet qu'on va traiter tout au long des prochaines semaines pour qu'on puisse, en tant que chrétien, savoir comment vivre avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que cela engage? Vivre dans le Seigneur, vivre avec Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons vu que tous qui sont en Jésus-Christ, ils trouvent une nouvelle identité. Nous avons donné des exemples. Nous avons vu comment les disciples ont été baptisés à cause de ce que le monde voyait en eux. Ils pouvaient identifier les disciples comme Jésus. La vie des disciples ressemblait quasiment à la vie que Jésus menait ici sur terre. Ce qui faisait qu'à travers les œuvres, à travers ce qu'ils faisaient, on les a nommés chrétiens pour dire que ce sont les disciples de Christ. C'est-à-dire ils suivent le chemin de Christ. Ils suivaient le chemin de Christ. Pour aujourd'hui, alors j'aimerais qu'on poursuive dans le même sens, mais nous allons voir le thème aujourd'hui que j'ai appelé Jésus change l'histoire. Jésus change l'histoire. Nous chantons souvent, nous avons plusieurs chants que nous chantons, là où nous disons que Jésus change l'histoire, nous demandons que Jésus change nos histoires. Mais aujourd'hui, par la parole, à la lumière de la parole, nous allons voir que c'est vrai, Jésus change l'histoire. Oui, les hommes aussi peuvent changer l'histoire, vous savez. Les hommes peuvent changer l'histoire de la personne. Parce que l'histoire de la personne, moi, quand je méditais la parole, j'ai compris que l'histoire de la personne est faite de ce que nous pouvons voir, mais aussi de ce que nous ne pouvons pas voir. Ou bien ce que nous pouvons intervenir, ou nous pouvons changer, ou ce que nous ne pouvons pas changer sur la personne. C'est pour cela que si je vous dis que les hommes peuvent changer l'histoire des autres, oui, c'est vrai, mais il y a une partie que les hommes ne peuvent jamais changer. Et ça va être la particularité, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul peut changer les deux parties, l'homme tout entier, l'histoire de l'homme tout entier. Amen. C'est seulement Jésus qui est capable de changer de façon intégrale l'histoire de l'homme. Sinon, les hommes, ils vont changer le côté physique. Par exemple, si vous étiez pauvre et que vous rencontrez, par exemple, Bill Gates et qu'il a pitié de vous, il peut changer votre vie. Et on va dire, le monde va dire, oh, telle personne, sa vie a changé, son histoire a changé parce que il a rencontré Bill Gates, il lui a donné une certaine somme d'argent pour peut-être commencer, je ne sais pas, un business. Et après quelques années, sa vie que nous pouvons observer a changé. Parce que la vie de ce que nous voyons aussi fait partie de notre histoire. Hein? Ça fait partie aussi de notre histoire. Mais la partie que n'importe qui ne peut jamais toucher, c'est celle-là que nous allons aussi traiter pendant ce qui. Qu'est-ce que ça va avec les gens? Alors, je poursuis, même si peut-être les gens sur Zoom ne suivent pas, mais ils auront un ah, OK. Ça, c'est l'essentiel. Bon, alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles pour voir en détail ce que j'étais en train de dire. Je vais utiliser un passage qu'on trouve dans l'Acte des Apôtres. Chapitre 3, on va aller du verset 1 jusqu'à 10. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10. Alors, je vais peut-être demander à Mariam de venir nous lire ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 3, 1 à 10.
Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière et 3 heures près de la porte du temple, appelée la Belle Porte. Il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y rentrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, Regarde-nous. L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, Je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus
Amen.
de Nazareth,
Amen.
lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt le pied et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tout remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce que lui avait été arrivé.
Amen. Amen. C'est un peu une longue histoire, mais une belle histoire. Tu vas nous accompagner pour comprendre comment Jésus aussi peut changer. Même aujourd'hui, il le fait. Il n'a pas seulement, il s'est pas arrêté seulement à cette personne, mais même aujourd'hui, nous allons voir comment il le fait. Et si vous voulez, si nous voulons aussi, il va le faire pour nous. Amen. Alors, nous voyons l'histoire de cette personne. Dans ce récit, la Bible nous parle de deux hommes de Dieu que vous connaissez bien, qui se rendaient à la prière dans l'après-midi dans le temple. Mais la Bible, comme vous le voyez, la Bible nous parle d'un homme qui était infirme, c'est-à-dire qui ne marchait pas. Et ça faisait partie de sa vie depuis sa naissance. Les gens le reconnaissaient comme ça. Et vous savez, oui, quand on voit des personnes comme ça, oui, bon, des fois on a pitié d'eux, mais on passe et on dit, OK, c'est comme ça. C'est comme ça que ça, il est né. Donc on n'a rien à faire. Alors cette personne, la seule chose qu'on lui aidait, sa famille, j'imagine, c'est de le transporter et l'amener à la porte d'entrée pour que le monde qui vienne faire la prière puisse avoir pitié de lui et lui donner quelque chose. Oui, il avait choisi cette place. Je peux peut-être dans mes analyses parce qu'il pense que les gens qui viennent à l'église, ils sont générés, ils vont quand même, selon la parole, selon même la loi. Le Seigneur a exigé les gens de donner, d'aider depuis l'ancien temps, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est comme s'ils se disaient, oui, à la porte, je vais quand même rencontrer beaucoup de monde qui auront pitié de moi. C'était différent que peut-être ils pouvaient s'installer, je ne sais pas où, à la place publique, mais il a choisi à la porte d'entrée du temple. Il était là pour mendier. Il ne s'intéressait pas à ce qui se passait à l'intérieur. Il voyait le monde entrer et sortir. Mais lui, il ne s'attendait même pas. Il avait en fait accepté. Il avait accepté son handicap, sa vie. Ils vivaient avec ça et puis ils se disaient, OK, je vais, c'est comme ça, ma vie est comme ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a, je ne sais pas encore s'il y a des médecins à cette époque-là qui pouvaient peut-être traiter des personnes comme ça. Aujourd'hui, il y en a aussi. Aujourd'hui, la science a évolué et que peut-être on peut donner des supports, mais à cette époque-là, c'était encore difficile. Donc, la personne avait accepté sa vie. Ça faisait partie de son histoire. Et sa famille aussi l'avait accepté comme ça. Peut-être qu'ils l'ont aidé au début, mais à un moment donné, au fur et à mesure qu'il grandissait, le temps d'être autonome, ils ont dit non, on ne peut pas quand même continuer à subvenir à tes besoins. Il faut que quand même tu commences à te chercher aussi comme tout le monde. Alors la seule façon de gagner l'argent, c'était d'aller mendier. Si on analyse sa vie, on voit que cet homme, non seulement qu'il était infirme et qu'il mendiait, mais il était désespéré aussi. Si vous voyez ces gens-là, peut-être ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des coins où vous les voyez souvent, beaucoup, ils sont désespérés. Et ils ne sont pas contents. Donc, ils vivent vraiment une vie misérable. Même si tu lui donnes, mais il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie parce qu'il sait que, oui, aujourd'hui, tu lui donnes, mais il ne sait pas donner. Mais ce que tu lui donnes aussi, il était capable d'aller rechercher toutes ces. Donc, ce n'est pas une vie qui, quand même, qui est belle qu'une personne peut souhaiter. Donc, c'est juste pas manque de choix. Les gens les méprisent aussi. Ces gens-là sont méprisés. Des fois, ils tendent la main. Il y en a même qui leur répondent mal, à cause peut-être de leur situation aussi, de leur. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu avec les autres. Mais à chaque fois qu'ils tendent les mains, ce n'est pas évident qu'il va recevoir. Des fois, on le refuse. On le rejette. Et vous comprenez ce que ça fait à lui, ce que ça fait dans cette personne. Alors, ce soir-là, cet après-midi, ces deux hommes de Dieu viennent à l'église, Pierre et Jean, comme ils le faisaient d'habitude. Et le monsieur, il tend la main. Il tend la main. En se disant que peut-être ces hommes de Dieu allaient donner quelque chose. Malheureusement, la réponse qu'ils ont donnée au monsieur était vraiment décevante. Il lui dit, monsieur, nous n'avons rien à te donner. C'est décevant, hein? Nous n'avons rien à te donner. Mais quand même, fixez-nous, regardez-nous. Ce que nous avons, nous te le donnerons. Mais physiquement, ils n'avaient rien, peut-être sauf. Je ne sais pas s'ils avaient encore les données. À cette époque, la Bible n'existait pas. Aujourd'hui, nous transportons nos Bibles. Mais eux, je ne sais pas, peut-être qu'ils marchaient seulement avec le Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit les guidait. C'est vrai qu'il y avait des livres de loi, il y avait toutes sortes de choses. Mais apparemment, physiquement, ils n'avaient rien. Et ils ont affirmé en disant au monsieur que, monsieur, comme tu nous vois, on n'a rien à te donner. Parce que nous savons que toi, tu as besoin de choses physiques, tu as besoin de l'argent, mais on n'a pas d'argent. Mais quand même, fixez-nous. Amen. Et oui, le monsieur, parce qu'il n'avait pas le choix, et il les a regardés, il n'avait pas le choix de le faire. Parce qu'il se disait, oui, peut-être, si je respecte, peut-être qu'ils vont me donner promesses, peut-être qu'ils vont à l'entrée et revenir, m'apporter quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, regardez-nous, regardez-nous. L'homme les regarda avec attention. Amen. Il avait quand même, il y avait, je dirais qu'il y a une connexion qui était en train de se créer. L'homme avait commencé à être attiré par les paroles de ces deux hommes. Apparemment, il espérait qu'à travers les. Et leur propos, il y aura quelque chose de tangible qui va sortir. Il regardait avec attention car ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Ils s'attendaient à ce que les hommes de Dieu lui donnent quelque chose, mais à condition qu'il les voie, il les fixe, il les fixe avec attention. Alors Pierre lui dit au verset, je suis au verset 5, 6, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, amen. Lève-toi. Alléluia. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or, mais ce que j'ai, je te la donne. Lève-toi. Alléluia. C'est merveilleux. C'est la chose que l'homme ne s'attendait jamais toute sa vie. Ce n'est pas la chose qu'il espérait. Parce qu'à son âge, je pense que sa famille avait essayé quand même de rencontrer des gens qui pouvaient faire quelque chose concernant sa maladie. Mais ça n'avait rien donné. J'ai l'impression que à ce moment-là, il ne s'attendait pas à quelque chose qui peut toucher à sa maladie. C'était seulement quelque chose qui pouvait lui aider pour une journée, pour survivre une journée, pour manger, mais non pour guérir. Mais parce que les hommes de Dieu, ils avaient la puissance, ils avaient été donnés la puissance de guérir les malades. Ils l'ont soulevé, ils l'ont pris. L'homme s'est levé et vous voyez l'histoire, il a commencé à marcher. La Bible nous dit que il a marché et puis il est entré avec les autres au temple pour louer le Seigneur. Amen. Pour adorer le Seigneur. Parce que sa vie venait d'être changée. Son histoire venait d'être changée. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a une partie que l'homme peut changer dans l'histoire de la personne. Oui, l'homme peut nous donner des choses matérielles. Mais la partie maladie ou la partie intérieure de nous, c'est seulement Jésus. C'est seulement la puissance de Dieu qui peut changer les choses. Amen. L'homme qui était infirme pendant des années, ce jour-là, il est debout. L'histoire est changée. Il marche. Il saute. La Bible nous dit qu'il a sauté. Il louait maintenant. Il a voulu maintenant. J'ai l'impression que même avant, il entrait à l'église, mais peut-être il n'était pas le bienvenu. Mais ce jour-là, comme il était normal, il était guéri, il se disait, non, je n'ai pas le choix d'aller adorer, louer le Seigneur. Parce qu'il savait quand même qu'à l'intérieur, même s'il était à l'extérieur, mais à l'intérieur, louer le Seigneur. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était, je dirais, il avait un autre fardeau sur lui. Mais dès que sa vie change, dès qu'il est guéri, il entre pour louer le Seigneur. Il commence à participer dans l'assemblée. Amen. Il commence à rentrer chez lui comme tout le monde. Il n'attendait personne pour le transporter encore. Il marchait tout seul. Et comme l'histoire continue, le monde a eu peur, a été effrayé de ce qui venait d'arriver. Parce que, aux yeux du monde, ils avaient condamné la personne qu'il allait mourir comme ça. Ils ne s'attendaient pas que l'homme soit guéri. Parce qu'il n'avait pas vu des choses pareilles auparavant. Il faut savoir que c'est vraiment le premier miracle que les apôtres, les disciples, les apôtres ont fait. Le monde n'était pas habitué à ce genre de choses. Et ils étaient effrayés. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Et ils commencent à se demander ce que c'est le même Messie ou bien c'est l'autre. Vous savez, à chaque fois qu'il se passait des choses comme ça, même avec Jésus, après il y avait des discussions, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient non, ça doit être quelque chose de caché. Est-ce que ce n'est pas une autre personne? Est-ce que c'est lui? Est-ce que des fois, il venait même à la vraie personne, lui demander est-ce que c'est toi qu'on voyait à la porte? C'est toi qui mendiais à telle place. Donc, les gens n'avaient pas la foi de comprendre. Leur foi n'arrivait pas à vraiment à toucher à ce que à ce, à, au miracle que les disciples faisaient ou Jésus faisait à cette époque-là. Mais la Bible nous dit que oui, ils ont compris que c'est Dieu qui le fait. Si vous continuez l'histoire, même l'apôtre Pierre les a demandé, mais pourquoi vous êtes étonnés? C'est comme si vous êtes étonnés, comme si c'est nous. Et vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, ce qu'on connaît comme les hommes de Dieu, des fois, ils font des choses. Je ne veux pas dire que c'est avec Dieu ou avec d'autres puissances, mais quand ils font des choses, qu'il y a quelque chose qui se passe, s'ils prient pour les malades, que la malade guérit, des fois les gens s'attendent à ce que la gloire revienne. Mais ça n'a pas été le cas pour Pierre. Les gens voulaient peut-être venir à lui, lui dire, mais peut-être ils avaient demandé même à déposer les requêtes, dire, ah, moi aussi je connais terre, je connais une place où il y a une autre personne. Moi-même, j'ai un enfant chez moi que j'ai laissé. Mais Pierre, il leur dit non. C'est comme si vous pensez que c'est moi qui a fait ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un agent. Je suis qu'un agent. Sinon, il commence à témoigner Jésus. Alléluia. Il commence à témoigner Jésus qui était à lui. Ça a été une occasion. C'est comme si ça a ouvert les portes pour Pierre, pour évangéliser, pour les parler de Jésus qu'ils avaient tué, pour leur dire que Jésus est vivant, qu'il travaille encore, qu'il est à rêve. Amen. Qu'il est encore Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait avant de le tuer? Il le fait encore, qu'il est vivant. Amen. Nous voyons alors que l'histoire de ce monsieur a changé depuis ce jour-là. Il était infirme, il ne l'était plus. Dans son histoire, vous comprenez qu'il y a eu une histoire d'avant, une histoire d'après. Oui, quand les gens le voyaient, ils pouvaient dire, ah, tel monsieur, c'est lui qui autrefois était à la porte du temple. Mais son histoire avait changé, peut-être il était dans d'autres choses. La Bible n'en parlait pas, mais c'est sûrement qu'il a intégré la société, il a fait d'autres choses. Mais à partir de ce jour-là, sa vie, son histoire a changé. Jésus change l'histoire des personnes. Amen. Oui, ça c'est une partie qu'on voit. Oui, on peut classer ça dans ce que nous voyons. Oui, qui sont observables aux yeux du monde. Mais il y a d'autres choses qui ne changent pas, que l'homme ne peut pas observer, mais que Dieu aussi est capable de changer. Bien-aimé, seul Jésus peut changer l'histoire d'un prostitué pour devenir autre chose. Seul Jésus peut changer la vie d'un voleur. Vous savez que là, l'histoire d'un voleur peut changer une partie, peut-être changer une partie. Une personne peut être un voleur un jour, à force de voler, peut-être, je ne sais pas s'il arrive à utiliser bien ce qu'il a volé. On va dire qu'il a été, bon, sa vie a changé. Peut-être, selon ce qu'on va voir, on va dire que oui, on connaît la personne, elle était pauvre avant. Mais peut-être il a volé, je ne sais pas. Et puis, on le voit maintenant rouler dans des belles voitures, des voitures de luxe, ou bien il a construit une belle maison, une villa. On va dire que oui, sa vie a changé. Mais cela peut changer, ce que nous voyons peut changer. Mais le monsieur toujours volé à l'intérieur. À lui, il peut continuer à pratiquer le vol. Je vous dis que c'est Jésus seulement qui peut changer ce que nous voyons et aller jusqu'à l'intérieur de la personne. Aller jusqu'à changer notre intérieur. Alléluia. Nous allons le voir avec d'autres exemples. Vous connaissez Zachée. C'est l'histoire qu'on peut retrouver dans Luc 19. On ne va pas le lire. Luc 19, si vous avez des papiers, vous pouvez écrire les références, puis vous allez pouvoir lire chez vous une fois vous avez du temps. Nous voyons l'histoire de Zachée dans Matthieu, dans Luc 19, 1 à 10. L'histoire de cet homme aussi est composée de ce que le monde voyait, mais il est composé aussi à des choses que le monde ne voyait pas. Le monde le connaissait, il était quand même un agent des Romains qui était chargé d'impôts. Donc il travaillait pour les Romains pour collectionner les impôts. Et les gens le connaissaient pour cela. Comme les gens n'aimaient pas qu'on les impose au détriment des Romains, ils n'étaient pas contents de tous les gens qui étaient, on les appelait les complotistes, comme les gens qui sont complices au régime romain qui gouvernait à cette époque-là. Tout ce qui travaillait pour les Romains, les compatriotes les voyaient mal. Et le monsieur Zachée, en plus, il occupait un poste qui n'était pas, même aujourd'hui, hein, même aujourd'hui, si un agent du Revenu Québec t'appelle, c'est vrai que heureusement, on ne reconnaît pas. Mais je ne pense pas que vous allez avoir de bonnes conversations. Si tu es un commerçant, si tu as une boutique, des fois, ce n'est pas les gens qu'on souhaite que peut-être on ait des relations. Parce qu'on sait que, oui, quand ils vont venir, ils vont fouiller, fouiller, fouiller. Peut-être que ça va nous causer des problèmes. Et en plus de cela, Zachée, oui, il travaillait, il était salarié, mais il avait ses moyens aussi de trouver de l'argent de mauvaise façon. Il pouvait prendre les choses des autres, oui, parce qu'il avait son poste, il pouvait aussi demander des surplus aux gens, en plus des impôts qui doit au gouvernement, mais il demandait un peu plus. Ce qui faisait que, aux yeux des hommes, il était considéré comme un voleur, il n'était pas un homme réputé dans la société. Mais je vais vous dire une fois, Jésus. Il a rencontré Jésus, c'est une longue histoire que je ne vais pas peut-être répéter en détail, mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a touché de façon intérieure. C'est lui-même qui a témoigné. Il n'y a personne qui est venu le pousser, il n'y a personne qui a réclamé à Jésus dire à ce monsieur que tu as accueilli, il m'a volé. Il n'y a personne, mais. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Donc, il a travaillé, Jésus a travaillé, il a travaillé son intérieur jusqu'à ce que lui-même témoigne qu'il avait pris des choses, il avait volé, il a dit à tout le monde que j'ai pris les choses que je ne devrais pas prendre, je vais les payer avec une amende, je dirais. Vous voyez, son histoire aussi a changé. Mais c'est l'histoire que nous ne pouvons pas, que l'homme ne pouvait pas changer. Mais quand Jésus est arrivé chez Zachée, il a changé son intérieur pour maintenant devenir une autre personne. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus le même. Il n'était plus le même qu'on connaissait, voleur, qu'on traitait de voleur, qu'on traitait de toutes les noms, là, de toutes les mauvaises noms, les mauvais noms. Mais il a pris un nouveau nom. Il est devenu un homme sage au vu de la société. Parce que Jésus avait touché sa partie intérieure. Si vous voyez l'apôtre Paul, l'autre fois qui était Saül, vous pouvez lire ça dans Actes 9 à 19. Vous savez comment il maltraitait les chrétiens. Toute personne qui croyait en Jésus-Christ, Saül, il est maltraité. Il était reconnu de ça. Dans son historique, dans son CV, c'était un persécuteur. C'était quelqu'un qui persécutait les hommes de Dieu. Mais une fois, Jésus l'a rencontré à Damas. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a changé son histoire. Amen. Il a changé son histoire. Saül, qui était autrefois un tueur, il est apôtre. Il est rendu apôtre. Apôtre du Seigneur. Il n'est plus un persécuteur, il n'est plus un chasseur des hommes de Dieu. Mais maintenant, il les cherche pour une bonne raison, pour une bonne cause. Parce que Jésus avait changé son histoire intérieure. Nous pouvons trouver beaucoup d'exemples. Femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait plusieurs maris. Elle aussi, ça faisait partie de sa vie, de son histoire. Et déjà, la reconnaissait comme ça. Et personne ne pouvait changer cette dame-là. Il n'y a personne. On pouvait lui donner des choses, oui, matérielles. Mais personne ne pouvait changer l'intérieur pour qu'elle sorte de ça. De son métier, je dirais, de son métier de prostitution. Mais une fois, il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Et Jésus a changé son histoire. Jésus l'a touché. Et ce jour-là, il a changé son histoire. Il a témoigné. Il a confessé ses péchés. Et son histoire a changé. Amen. Alors, à partir des exemples que nous venons de voir, oui, je les ai classés dans deux catégories. La catégorie que, oui, on voit que même où les hommes peuvent, oui, faire des choses, peuvent contribuer au changement. Mais il y a d'autres parties de nous aussi qui ont besoin d'être changées, mais seulement par Jésus, par la rencontre de Jésus-Christ lui-même. Jésus est capable de changer ce dé. Oui, quand il arrive, il peut changer l'extérieur, mais il ne te reste pas comme ça. À toute personne qu'il a guérie, des fois, il commençait par l'intérieur et puis aussi l'extérieur. Il n'a jamais guéri quelqu'un et le laissé partir. Et aussi toucher le cœur. Quand Jésus arrive, oui. Il est intéressé par ces deux parties. Par contre, nous les hommes, oui, on fait ce qu'on voit. On traite ce qu'on voit. Si c'est pour aider la personne qui est dans la misère, oui, on va traiter, on va lui donner quelque chose. Mais peut-être il y a d'autres choses à changer. Il y a d'autres choses à changer à l'intérieur que nous ne pouvons pas voir. C'est Jésus lui-même, c'est Jésus seulement qui peut aller un peu plus profond, au-delà de ce que nous les hommes pouvons faire, c'est Jésus qui est capable d'aller plus loin. Alors, dans la vie de tout un chacun, oui, chaque personne a son histoire. Moi, j'ai mon histoire. Oui, je sais que dans mon histoire, il y a des choses que Jésus a changées. Même si je vous dis mon vécu, vous allez voir que oui. Les gens qui me connaissent vont dire, ah, son histoire a changé. Il y a des gens qui me voient aujourd'hui qui disent, ah oui, son histoire a changé. Parce qu'ils me connaissent autrefois. L'autre fois, ils savaient peut-être ce que je vivais. Même le fait que je suis ici au Canada, c'est une partie de mon histoire qui a été changée. Parce que je ne veux pas vous dire que j'avais un familier ici au Canada. Ou bien j'avais une personne dans ma famille qui allait m'aider à arriver ici. Non. Mais Jésus, comme je vous ai dit, des fois il traite ce qu'on peut voir à l'œil, avec nos propres yeux, mais lui, il va un peu plus loin. Alors, il y a une partie que le monde pour moi voit et ils peuvent témoigner qu'il y a une histoire qui a été changée pour moi. Mais il y a d'autres choses aussi que Jésus a changées en moi. Et pour toi aussi, c'est le même cas. Pour tous qui vont nous suivre aussi, c'est le même cas. Alors, pour terminer, j'aimerais vous inviter à revoir à nous-mêmes si oui, des fois, nous les hommes, On aimerait que les choses visibles changent. Les choses extérieures. Si nous sommes dans la misère, oui, des fois on chante, change notre histoire. Oui, pour dire que Jésus nous donne des choses matérielles que nous avons besoin. Oui, si je vis dans une mauvaise situation, qui ne me plaît pas, je vais demander au Seigneur de changer aussi mon histoire, de changer cette situation pour me donner une bonne situation. Ça aussi, c'est bon. Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires dans nos vies qui ont besoin d'être changées? Et par Jésus seul. Est-ce qu'il n'y a pas des coins où les hommes ne voient pas, où même maman ne peut pas intervenir, où papa ne peut pas intervenir, qui ont besoin d'être changés à moi, à toi, en toi et à une autre personne qui me suit. Alors c'est Jésus seulement qui est capable d'arriver à changer. Alléluia. C'est seul Jésus qui peut aller au-delà de ce que nous voyons et changer. Alors je vais vous inviter à prier avec moi et demander au Seigneur, comme il a fait, comme on le voit, il a fait avec les disciples, avec les gens, peut-être dans le Nouveau Testament, avec les premiers croyants. À son époque, à l'époque où il vivait sur terre, on peut prier, on peut lui demander, comme il l'a fait, il peut le faire même aujourd'hui. Comme on aime le dire, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et c'est quelque chose que Jésus ne peut pas refuser à qui que ce soit. Oui, tu peux demander que peut-être si tu marches à pied, peut-être tu peux demander j'aimerais que tu changes ma vie, que tu me donnes je sais pas, une voiture, que tu me donnes un vélo. Ça peut prendre des années. Mais si tu demandes à Jésus de changer le cœur, c'est automatique. Alléluia. Parce que Jésus aime le cœur plus que des choses que nous pouvons voir. Alors je nous invite à nous humilier devant le Seigneur, à demander, Seigneur, tu connais tous les coins de ma vie. Il y a des histoires que j'ai, mais que j'aimerais m'en débarrasser. Mais des fois, il y a des choses, je vais vous dire, si c'est un problème de drogue, si quelqu'un est drogué et que ça fait longtemps, ça fait partie de son histoire, il peut même souhaiter de s'en sortir. Il peut utiliser des moyens que les médecins peut-être peuvent recommander. Ça peut ne pas marcher. Mais avec Jésus, si la personne s'humilie et demande à ce que Jésus change son histoire, Jésus va refaire. Alléluia. Jésus va refaire. Son histoire va changer. C'est seulement Jésus qui peut transformer les drogués aux évangélistes, aux apôtres et personne d'autre. Et personne d'autre. Oui, le gouvernement peut faire ce qu'ils peuvent, mais il y a une partie qu'ils ne peuvent pas toucher. Dans nos pays africains, ben, je veux dire là où peut-être la loi n'est pas très bien respectée, quand on attrape un voleur, vous savez ce qu'on fait? Avant de l'amener peut-être dans la justice, vous savez ce qu'on fait? On ne fait que le tabasser. On va le tabasser comme si cela va changer. Mais peut-être il va passer une semaine au lit ou bien à l'hôpital, mais dès qu'il sort là-bas, parce que l'intérieur là, ce qui est à lui n'est pas touché, il va retourner dans ses anciennes habitudes. Mais Jésus, une fois arrivé, c'est ça qui touche en premier. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Nous te bénissons. Parce qu'à chaque fois que tu nous invites, à chaque fois que nous venons devant toi, nous entendons des bonnes choses, des messages qui nous interpellent, des messages qui nous encouragent. Et nous entendons aussi des avertissements en tant que parents. À ce moment, Seigneur, précis, nous étions en train d'écouter ce que tu as voulu que nous écoutions à ce midi. Mais Seigneur, comme ta parole nous interpelle, ta parole nous exhorte, Seigneur, nous voulons nous exposer devant toi, nous voulons nous disposer devant toi. À travers des exemples que nous avons lus, nous avons vu que Seigneur, tu as changé les histoires des personnes, de pas mal de monde. Mais nous avons vu qu'il y a une partie qui est propre à toi. La partie intérieure, le cœur. C'est toi qui es capable seulement de changer le cœur. Et des fois, des choses, des mauvaises choses se préparent à l'intérieur de nous. Et les gens ne voient que seulement les manifestations, mais la racine est à l'intérieur de nous. C'est toi qui peux enraciner, Seigneur, toutes ces choses et nous former une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Je prie que, Seigneur, chaque personne qui prie en ce moment, qui a besoin, Seigneur, que tu traites, que tu changes son histoire. Sur un point, sur un sujet quelconque, Seigneur, lui, viens au secours de cette personne. Touche-la, Seigneur. Touche cette personne. Change son histoire. Afin que le monde sache que tu es toujours le même. Que ce que tu faisais, Seigneur, quand tu étais sur terre, que tu le fais même aujourd'hui. Que ça n'a pas terminé seulement avec les apôtres, avec les disciples, mais que ça continue, que tu es à l'œuvre même aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que les histoires des gens, que nos histoires, et des fois nos mauvaises histoires, changent et que tu nous donnes, Seigneur, un bon commencement et qu'on recommence une histoire avec toi. Comme tu l'as fait pour Zachée, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, qui était autrefois Saül. Change nos histoires, Seigneur. Merci, Papa. Et je sais que tu peux changer aussi les histoires de notre vie, notre vie physique. Nous prions que aussi, Seigneur, tu agisses sur ça. Que tu interviennes sur ça aussi. Pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de toi en termes financiers, que tu te révèles à eux. Pour ceux qui ont besoin aussi, Seigneur, des choses matérielles. Je sais que tu es capable de donner ça. Faites-le, Seigneur. Merci, Papa. Merci que tu continues à travailler, que tu arrives, même tout au long, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long des prochains jours, des prochaines semaines. Sois avec les gens. Seigneur, pour ceux qui t'invitent à vivre avec eux, Seigneur, reste avec eux. Reste avec eux dans ce cheminement qui veut commencer peut-être. D'avoir une nouvelle vie, cette nouvelle page, Seigneur, de leur vie. Accompagne-les. Maintenant, Seigneur, que nous terminons, nous allons nous quitter. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu sois avec tout un chacun. Que la semaine que nous allons débuter, Seigneur, soit une bonne semaine pour nous tous. Que tu ne nous laisses pas. Et que ce soit au travail, dans nos quotidiens, Seigneur, dans nos activités de tous les jours, que tu sois avec nous. Et qu'on continue de méditer cette parole, Seigneur. Et que ce soit un support dans notre vie de tous les jours, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que la paix du Seigneur vous accompagne dans cette semaine jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen.